Et voilà, nous sommes en ligne avec les carnets de Caumaguerre, hebdomadaires tous les mardis de 15h à 16h, rediffusion le jeudi de 10h à 11h. Et aujourd'hui, je vais commencer par présenter tout le monde qu'il y a dans la cabine technique, parce qu'il y a un monde fou dans la cabine technique. Donc, bien sûr, Sidi, que vous connaissez de nom, est là, mais il est aussi secondé et puissamment par deux nouvelles personnes qui travaillent pendant un an, je crois, chez Radio Galère, qui vont se présenter. Présenté en tant que tel. Alors, je crois qu'il y a Camille et sa copine, excusez-moi, pour le deuxième prénom que j'ai mangé. Alors, je vous écoute. On vous écoute.
Oui, moi, c'est Louise.
Et moi, c'est Joanne. Donc, Camille n'est pas là aujourd'hui, je précise.
Ah, c'est ça. Il y avait bien une Camille. Bon, ça va, je l'ai. Bon, ça va. Et puis, en présence d'un stagiaire, comme on en a assez souvent à cette période de l'année, qui est un collégien de troisième, donc, puis c'est la période où les collégiens vont voir ce qui se passe en dehors du collège. Et il est là. Bonjour.
Alors, bonjour. Oui, moi, c'est Timur, le stagiaire chez Radio Galère. Voilà. Je suis en troisième chez le collège Vieux-Port. Voilà.
Voilà, stagiaire donc du Collège Vieux-Port, d'origine russe, qui est donc à Marseille depuis un certain nombre d'années. Voilà, et qui s'y trouve bien, je transmets son commentaire. Voilà. Bon, donc mes excuses pour Camille et mes excuses pour avoir mangé. Louise, je me souvenais
Elle
pas.
Elle vous excuse.
Ah, c'est gentil, que c'est bien, que c'est bien.
C'est bien.
Voilà. Alors, on va commencer par un sujet dont on ne parle pas fréquemment, parce que là, c'est une vieille histoire qui n'en finit pas de finir. C'est l'histoire de Julian Assange. Alors, vous connaissez le personnage, vous en avez entendu parler. Vous savez tous les ennuis qu'il a eu et qu'il continue à avoir. Donc, les poursuites, les fausses accusations de viol par des Suédoises qui se sont défaussées de cette accusation, la séquestration, enfin, l'asile organisé dans l'ambassade d'Équateur à Londres, qui a pris la forme donc d'une séquestration, puisqu'en fait, pendant 7 ans, il n'est pas sorti de sa chambre. C'est même pire que la prison, puisqu'il n'y avait même pas un espace pour faire du sport. Il est resté 7 ans enfermé dans une chambre. Et il faut savoir aussi que dans cette chambre, bien entendu, les services secrets avaient installé des micros pour qu'on puisse écouter ses communications téléphoniques. Et puis un beau jour, la Grande-Bretagne a décidé d'aller l'enlever dans l'ambassade, donc avec le concours, probablement avec la complicité de l'ambassadeur à ce moment-là. L'ambassadeur avait changé, et puis surtout le régime à Quito avait changé, c'est-à-dire que L'accueil de Julian Assange dans l'ambassade d'Équateur remontait au moment où Correa était au pouvoir. Et ensuite, le pouvoir a changé de main. Et donc, on a l'Équateur, en tant que tel, a abandonné Assange à son sort. Bon. Et depuis, vous savez que la justice britannique s'est préoccupée de savoir si elle allait l'envoyer aux États-Unis, puisqu'il est réclamé par les États-Unis, par le gouvernement, en application d'une législation qui a 105 ans, qui s'appelle l'Espionnage Act, qui est de 1917, dont les termes, enfin, on a un peu tiré sur les termes pour savoir qu'il pouvait être soumis à des accusations relevant de cette loi de 1917, et les péripéties, parce qu'il y a procès, appel, etc. En attendant, alors qu'il n'est qu'inculpé d'un certain nombre de choses, Julian Assange est dans une prison de haute sécurité, à l'isolement, fatigué, probablement malade, et sa vie risque même d'être menacée. Bon. Ça, vous le savez, mais je le rappelais, parce que, et c'est pour montrer qu'un monsieur, et j'insiste là-dessus, dont la seule... même pas le seul crime, dont la seule tâche a été de mettre en circulation des documents qui avaient été sortis des services secrets des États-Unis par une personne qui, d'ailleurs, qui était un salarié, une salariée, puisque entre le début de l'affaire et la fin de l'affaire, cette salariée a changé de sexe. C'est-à-dire, c'est un garçon qui est rentré à la CIA et c'est une jeune fille qui en est sortie. Bon. C'est les miracles des services de renseignement américains. Bon, donc, elle s'appelle maintenant Chelsea Manning. Bon, elle a été condamnée par la justice des États-Unis. Elle a fait de la prison. Elle en est sortie maintenant. Mais donc, la seule chose, ce n'est pas ni un crime, ni rien du tout, ni un délit. Julian Assange a mis au point un réseau qui s'appelle Wikileaks, dont vous connaissez tous le nom, qui a diffusé des informations extraites par Chelsea Manning et quelques autres, apparemment, des bandes, des enregistrements de la CIA. Donc, il y avait là-dedans aussi bien des communications de Hillary Clinton, des communications téléphoniques avec les uns et avec les autres, etc. Bon. Ce qui en a été diffusé, et j'insiste encore là-dessus pour ne pas trop m'étendre sur le sujet à chance, c'est non pas des choses, parce que dans les milliards peut-être de textes qu'il y a dans ces enregistrements, vous savez, les capacités de l'informatique contemporaine, Julian Assange et Wiki ont décidé que de sortir que ce qui avait du sens politique. Parce qu'il y a, aussi là des affaires personnelles, intimes ou des calomnies, etc. Non, simplement les choses qui étaient significatives, mais elles étaient tellement significatives qu'elles dévoilaient ce qu'est concrètement la politique internationale des États-Unis. Et c'est ça qui est insupportable aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on pouvait se douter de beaucoup de choses. Là, avec Wikileaks, on avait les preuves. Et c'est ça qui est reproché à Julian Assange, c'est d'avoir fait le meilleur travail possible en tant que journaliste, c'est-à-dire avoir donné à l'opinion publique des éléments d'information incontestables sur des sujets qui touchent à la vie du monde en général. Et la vie du monde en général, d'une façon ou d'une autre, un jour, elle a une implication, un effet sur notre vie personnelle à chacun d'entre nous dans ce monde qui est très, on le dit, très connecté, très rassemblé. Tout ce qui est décidé par un gouvernement des États-Unis peut avoir un jour ou l'autre, un effet sur votre vie quotidienne. Parce que vous ne pourrez pas accéder à ceci, on vous raillera de votre compte Facebook, enfin, des tas de choses comme ça peuvent arriver. Nos vies individuelles sont très étroitement enserrées dans ce système de la connexion internationale où, jusqu'à nouvel ordre, les États-Unis sont encore en position dominante à travers, vous les connaissez, les Google, les GAFA, les Amazon, etc. etc. Bon. Ça, c'était pour vous rappeler le sujet Assange sur lequel on pourrait dire, enfin, on aurait pu dire la même chose il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois. Enfin, la chose nouvelle, et elle est extrêmement nouvelle, vous allez comprendre, c'est qu'une série de grands journaux internationaux, qui sont tous les porte-parole de la communauté des élites occidentales, soyons clairs, et je vais vous en donner la liste, vous comprendrez bien de quoi il s'agit. Donc, une série de grands journaux, avec en tête de l'opération le New York Times, principal quotidien des États-Unis, connu et lu dans le monde entier. Le deuxième, c'est le Guardian, principaux quotidiens britanniques. Le troisième, c'est Le Monde, fais pas un portrait. Le quatrième, c'est El País, l'équivalent du Monde et du Guardian en Espagne. Ouais. Le cinquième, c'est Der Spiegel, l'équivalent aussi du Monde et du New York Times en Allemagne. Bon. Quand vous avez aligné ces cinq noms, vous avez une quintessence de la pensée stratégique des élites occidentales. Qu'est-ce qu'elles pensent à un moment donné ou qu'est-ce qu'elles veulent que nous pensions? Car ce n'est pas tout à fait la même chose. La chose, dire les élites pensent ceci ou cela, ou les élites veulent nous conditionner pour que nous pensions telle ou telle chose. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Et quel est le gros changement sur lequel je voulais m'arrêter? C'est pour ça que j'en parlais d'Assange. Tout d'un coup, le New York Times me dit « Mais est-ce que c'est bien la peine de faire venir Assange aux États-Unis ?» Parce que faire venir Assange aux États-Unis, ça veut dire un procès, une menace de 175 ans de prison, c'est-à-dire la mort à vie, etc. Et ils se mettent à avoir des doutes. Alors s'ils ont des doutes, c'est qu'ils transmettent là des doutes qui sont en train de traverser l'équipe dirigeante des États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire de ce personnage avec ce procès? Qu'est-ce qu'il va dire pendant les audiences? Il va dire ce qu'on sait, c'est-à-dire il va dire « Je n'ai montré au monde entier les vilainies, les horreurs, les mensonges, les coups tordus de l'administration américaine. Hein? » Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien dit de plus. Or, ils vont finalement peut-être se trouver à un moment délicat où les simples échos des séances au tribunal qui pourront passer sur les ondes et sur les télévisions du monde entier sera de dire ben, « Moi, j'ai juste vu que j'ai produit des documents produits par les États-Unis, par la présidence, par le département d'État, par le Pentagone, par des militaires et tout, qui prouvent que les États-Unis, alors c'est moi qui le dis, c'est pas Assange, mais qui prouvent que les États-Unis sont un pays impérialiste qui n'hésite pas à tuer partout, à mentir partout, etc. À reprendre exactement les propos de Pompeo, l'ancien responsable de la CIA sous Trump, il disait « nous avons menti, nous avons triché, nous avons tué ». C'est notre métier. C'est le métier, c'est ça. Et ce n'est pas le métier simplement pour l'intérieur des États-Unis, c'est le métier qu'on applique sur la planète entière dès l'instant, et c'est là que l'histoire rentre en jeu, dès l'instant où les gouvernements des autres pays nous laissent faire. Et j'insiste sur cette dernière phrase, dès l'instant où les gouvernements des autres pays nous laissent faire, ce qui veut dire que quand un gouvernement d'un autre pays ne nous laisse pas faire, il devient un ennemi des États-Unis.
C'est ça
la situation dans laquelle nous vivons. Et c'est ça que l'affaire Assange risque de faire éclater si jamais ce procès a lieu. Et donc, on a, avec cet article du New York Times et la reprise donc par les quatre qui l'ont suivi, donc c'est-à-dire que les élites occidentales sont en train de se dire faire parler Assange devant le monde entier au cours d'un procès, c'est une opération dangereuse. On va passer, alors c'est moi qui le dis là, c'est pas eux, on va passer pour ce qu'on est, c'est-à-dire hein, des tricheurs, des tueurs, des menteurs, etc. Bon, ça, c'est pas possible. Bon, donc, j'ai un espoir aujourd'hui. J'aurais pas dit ça il y a 8 jours, j'aurais pas dit ça il y a 1 mois. Assange sera probablement libéré. J'espère qu'il sera libéré. J'espère qu'il sera libéré en n'étant pas mort des mauvais traitements et du froid dans sa cellule, dans la prison de Belmarsh. Bon. On vous tiendra au courant, d'autant plus qu'on a des liens avec des personnes qui, en France en particulier, mènent l'action pour le soutien et pour la libération d'Assange, qui n'a commis aucun crime. Hein, il a même en fait fait, alors c'est là que ça devient cocasse, il a fait respecter indirectement le premier amendement de la Constitution des États-Unis sur la liberté d'expression. Puisqu'il a simplement dit « je donne à voir au peuple américain, et au-delà, je donne à voir ce que fait son gouvernement dans son dos et sans s'en vanter ». C'est ça la liberté. Et il faut savoir qu'il y a aux États-Unis des gens qui sont attachés à cette liberté d'expression et à ce premier amendement. Or, en fait, c'est ça la situation. Assange, en fait, est la meilleure illustration du premier amendement et de sa portée. Bon, donc, coup de chapeau sur Assange, en espérant que le changement de ton, j'allais dire même le changement de cap, très, très important, le changement de cap va se produire très concrètement et va faire des effets. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous savez, je ne vous l'ai pas dit, mais que l'équipe Comaguerre est là. Hein, on salue tout le monde, hein, puisque... sont autour de la table Habib et Roselyne qui vient d'arriver et qu'on salue. Voilà. C'était le premier sujet. Donc on parlait de Assange, mais tu n'étais pas là, mais c'est très très intéressant ce qui se passe. Bien. Autre chose dont vous n'avez peut-être pas entendu parler beaucoup, mais qui est assez intéressant, il y a eu ce week-end à Mexico une manifestation, appelons-la populaire, de soutien au président du Mexique, qu'on appelle en abrégé AMLO, Manuel López Obrador, hein, une manifestation qui a circulé pendant plusieurs heures, 6 ou 7 heures, sur la plus grande avenue de Mexico qui s'appelle Insurgente et qui s'est terminée à la place centrale de Mexico qui s'appelle le Zócalo. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le président en exercice du Mexique a fait le point sur ses 3 premières années à la présidence du Mexique et il a annoncé le programme pour la 4e année. Alors, je ne rentre pas dans le détail, pas m'éterniser sur la question du Mexique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ses annonces de programme, quand il est arrivé au pouvoir, et dans le bilan qu'il en a fait devant la foule qui le soutenait donc à Mexico, ces derniers jours, il a dit « nous faisons ça, tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple, à commencer par les plus pauvres ». Alors écoutez bien ça, ça a l'air de rien comme ça. Alors on va dire « c'est un populiste, c'est si, c'est ça et tout ». Mais quand un programme présidentiel consiste à dire « on va s'occuper de tout le peuple, à commencer par les plus pauvres », c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, alors je vais reprendre une expression qui n'est pas mienne, on ne va pas faire du ruissellement. En disant « je commence par ceux du haut et puis peut-être par miracle il tombera quelque chose sur ceux d'en bas ». On est très très loin de ça. Quand on dit « on commence par ceux du bas », c'est une politique sociale qui est en cours et qui va se développer. Et c'est ça que le million de manifestants qui s'est rassemblé in fine sur le Zócalo, qui est une très très grande place, la place centrale de Mexico, était là dans la joie. Parce que c'est le peuple mexicain a compris qu'il avait affaire à un président qui fait une politique pour tout le monde. Pas une politique élitiste ou pas une politique de mafieux, comme ça a été le cas sous d'anciennes présidences mexicaines. Ouais. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup, mais ce fameux président AMLO, López Obrador, a fait un certain nombre de gestes intéressants en matière de politique internationale. D'abord, par exemple, le soutien à Cuba, ce qui est tout à fait clair. Hein. Soutien à Cuba, c'est-à-dire que quand Cuba a des ennuis, alors des ennuis, il en a tout le temps, Cuba, ouais, puisqu'il y a 60 ans d'embargo. Mais quand, par exemple, il y a des accidents au port pétrolier de Cuba ou quand il y a des cyclones qui détruisent une partie du réseau électrique, c'est le Mexique qui envoie du matériel, des techniciens pour aider à réparer. Parce que vous savez que l'embargo rend difficile l'acquisition par Cuba de matériel de remplacement.
Oui, c'est sûr. Ouais. Tout le matériel.
Voilà, donc le Mexique fait ça, il envoie des pompiers quand c'est nécessaire. Bon, il est fraternel, ça c'est très très important, il faut le savoir. Autre chose que fait le Mexique, c'est que le Mexique fait partie des pays qui vont faciliter les négociations entre le gouvernement colombien et la dernière guérilla qui reste, qui est la guérilla de l'ELN, l'Armée nationale de libération. Parce que le gouvernement, donc le nouveau gouvernement colombien, a décidé de mener des négociations de paix avec la dernière guérilla restante qui s'appelle l'ELN. Et ces négociations de paix, ça se fait dans un lieu qui n'est pas en Colombie, parce que c'est très très dangereux. Puis d'abord, les guérilleros, ils ne vont pas aller se promener dans les rues pour dire je vais en réunion, hein, parce qu'ils mourraient en route. Hein. Donc ça se fait dans un pays tiers, avec des observateurs étrangers qui se portent garants de la correction des engagements, du respect de la sécurité des délégués des uns et des autres, tout, c'est très très grave. Alors ça, c'est déjà passé avec les FARC, ça se passait à La Havane, et là, c'était Cuba qui a assisté, et c'est la Norvège qui servait de garant, et cette fois, ça va se passer à Caracas, au Venezuela, et on aura encore la Norvège et le Mexique qui se porteront garants, qui seront là pour assister, pour que la négociation avance, chacun disant, on souhaite qu'au bout, il y ait une paix. Mais une paix qui ne soit pas finie, qui se termine pas, comme dans le cas des FARC, par la liquidation de ceux qui ont signé les accords. Hein, puisque c'est ça qui s'est passé dans le cas des FARC. Et effectivement, le nouveau président colombien sait très bien qu'il ne peut pas reproduire la même erreur. C'est-à-dire que la direction de l'ENN, de l'Armée de Libération Nationale, sera très, très exigeante sur les conditions de sécurité après la signature de la paix. C'est-à-dire, s'ils sont d'accord pour revenir à la vie civile, ils veulent vivre la vie civile. Ils ne veulent pas mourir dans les 2 ans qui viennent, abattus dans le dos par quelqu'un qu'on n'a pas connu. C'est ça ce qui se joue. Et donc, là aussi, le président mexicain joue un rôle. Il fait partie des facilitateurs. Il fait partie des gens qui essayent que l'Amérique latine soit apaisée et sorte de ses difficultés. Ça, c'est très, très positif. Et puisque j'ai parlé de Gustavo Petro, je vais revenir un peu sur le personnage dont j'avais parlé la semaine dernière. Donc c'est le président, donc le nouveau président colombien, qui est sorti donc d'un électorat qui n'est plus celui qui portait au pouvoir les narcotrafiquants et leurs amis, et leurs trafiquants de différentes sortes, et les soutiens et les gens qui soutenaient les escadrons de la mort. Mais je me pose un peu des questions quand même sur le personnage. Je me pose des questions sur le personnage parce que quand il est allé faire son premier discours public quelques jours après ou quelques semaines après son arrivée à la présidence de Colombie, il a fait un discours très à la mode et un peu ambigu en même temps. Il a fait un discours anti-pétrole. Alors, il peut très bien, il est comme 25, comme 20, tout ce qu'on veut. Il est pour le passage donc, à d'autres formes de carburant, etc. Et alors, je suis allé voir, mais est-ce que la Colombie a du pétrole? Alors ça, je le savais. La Colombie a de bonnes réserves pétrolières. Elle n'est pas dans les grands producteurs. Elle est exportateur de pétrole. Et le gros de l'extraction et de l'exportation et de la consommation locale de pétrole est entre les mains d'une société nationale colombienne. C'est même pas ni Esso, ni Chevron, ni la BP.
Ni américaine.
Voilà. Donc, je me suis dit comment ça se fait qu'au fond, et ça fait partie, c'est, je crois, un quart des recettes d'exportation de la Colombie. Alors, j'ai trouvé ça assez ambigu que ce monsieur qui dise il y en a marre du pétrole, et en même temps, si une des branches sur lesquelles l'économie de son pays est installée. Alors, qu'il soit d'accord avec les objectifs à long terme pour, contre le réchauffement climatique, bien entendu, mais qu'il en soit à dire. Que le pétrole, il n'en a pas besoin, ça ne sert à rien et que c'est mauvais. Et il a comparé le pétrole à la drogue, ce qui est un discours c'est un peu bizarre. Ambigu aussi. C'est un discours un peu ambigu, le pétrole. Alors, vous allez dire, nos économies sont droguées au pétrole. Hein. Mais quand vous achetez 10 litres à la pompe, vous ne prenez pas une drogue. Vous prenez de quoi mettre dans le réservoir de votre voiture qui vous permet d'aller travailler. Hein. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je m'inquiète de ce type de discours. Parce qu'il l'a tenu en parallèle avec celui de la drogue. Je fais référence au discours qu'il a tenu donc, devant l'Assemblée générale des Nations unies, où là, il a été tout à fait clair. Et il a été d'autant plus clair que ça se passait à New York, qu'il a dit « il y en a assez qu'on ne parle de la drogue que pour parler que des pays producteurs de cocaïne ». Parce que ce qui fait le marché de la drogue, c'est les consommateurs de la drogue. Et entre les consommateurs et les producteurs, entre le paysan colombien qui fait de la coca dans son champ et le marché, il y a des intermédiaires. Et que le business de la drogue, ce n'est pas le paysan. Le paysan, il fait ça parce que ça se vend mieux que le reste. Voilà. Donc ça, la politique nationale anti-drogue, c'est une politique qui peut garantir un revenu agricole pour des produits vivriers, hein, pour l'agriculture, et pas que pour la cocaïne. Mais ça, c'est lié le prix qu'atteint la feuille de coca dans le champ colombien. Elle est liée au prix que se revend la cocaïne à New York, à San Francisco, à Houston. C'est ça. Et comme la marge est énorme, c'est des centaines de fois le prix initial, effectivement, c'est là qu'il faut porter. Et là, il était tout à fait dans le vrai. Et il allait dire, c'était courageux, allait dire à la Tribune à New York, hein, la drogue, c'est d'abord le problème de ceux qui la consomment. Il aurait dû dire, et même de ceux qui la transportent, et même de ceux qui la traitent, hein, beaucoup plus que celle du paysan colombien. C'était bien parce qu'il disait, je refuse que ce soit nos paysans qui soient accusés de la drogue, du trafic de drogue mondiale et de la consommation mondiale de drogue. Hein. Ils ne font que répondre à une demande d'un marché, et sur les marchés en régime capitaliste, c'est là où il y a l'argent que se prend la décision. Donc là où il y a l'argent, même si les consommateurs de cocaïne aux États-Unis ou en Europe, c'est un peu là, sont des gens qui ont suffisamment d'argent pour l'acheter, ce qui veut dire qu'ils ont aussi de quoi manger, hein, à peu près, je simplifie, parce que je ne vais pas faire un détail sur le marché de la drogue, mais il y a ça. Hein, donc il a bien mis le doigt où il fallait. Sur le pétrole, je me suis un peu posé des questions. Et donc, on va regarder au fil des mois comment M. Petro avance dans ces affaires-là. Alors, je pense qu'il a dans son électorat un discours, enfin des écologistes qui ont tenu ce discours, qui le reprennent sans ménagement et sans voir bien la situation, et en faisant ce parallèle qui me paraît quand même douteux entre le pétrole et la drogue. On peut dire, à l'échelle de deux siècles, effectivement, le pétrole n'est pas devenu une drogue, mais le pétrole s'est installé comme la base, la source d'énergie dont personne ne peut plus se passer. C'est tout à fait clair. Bien. Voilà pour Petro. On le suivra, mais il y a des choses à regarder de plus près. Ensuite, puisque je reste dans les chefs d'État latino-américains, je vais vous parler de ce qui me paraît être un événement politique d'importance, c'est-à-dire le voyage à l'étranger du président cubain, M. Díaz-Canel. Alors vous savez déjà, donc c'est le remplaçant de Fidel Castro et de Raúl Castro ensuite à la tête de la République cubaine. Et il a entrepris un grand voyage très très intéressant, puisqu'en fait il y a eu toute une série d'étapes, un grand voyage international, tout coordonné, entre où il est passé. Alors à Alger, c'était Ankara, je crois. Ensuite il est allé à Moscou et de là il est allé à Pékin. Ouais. Vous voyez, donc il a fait un énorme tour. Très, très intéressant. Donc, côté Alger, je n'insiste pas trop parce qu'il était évident que ça allait bien se passer, hein, puisqu'il y avait des affinités politiques anti-impérialistes tout à fait claires. C'est un peu plus surprenant, la visite en Turquie. Mais il faut savoir, et ça fait partie du sujet que j'aborderai après, que M. Erdogan n'est plus freiné par rien. C'est-à-dire il a toutes les audaces en matière de politique internationale. Et ce qu'il a fait, et je le cite parce que c'est vrai, c'est qu'après les dernières initiatives turques avec Cuba, sont le fait que une grosse entreprise turque, a fourni à Cuba un navire qui est un navire central électrique. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un bateau de mer, hein, sur un cargo, installer une centrale électrique qui peut marcher au fioul, qui peut marcher, dans certains cas, les Russes en ont, à l'énergie nucléaire. Hein. Et donc vous arrivez avec votre bateau sur lequel il y a une centrale électrique, vous branchez ça sur le quai, sur le réseau du pays, et vous fabriquez de l'électricité pour le pays. C'est-à-dire que le jour où arrive le bateau, vous avez une centrale électrique neuve qui se met en fonctionnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu... Alors, ça permet de détourner l'embargo, puisque Cuba n'a pas eu acheté de matériel pour une centrale électrique. Ça permet... Alors, si la Turquie le fait, ça veut dire que l'entreprise turque qui a fabriqué ce bateau et cette centrale électrique n'est pas soumise... Enfin, n'a pas d'affaires aux États-Unis, ne fait pas ses affaires en dollars et tout, donc a contourné l'embargo et le blocus, donc elle court aucun risque. Et en même temps, ça permet à Erdogan, qui adore ses gestes politiques, de venir à Cuba tirer la langue aux États-Unis. en disant, regardez, hein, ils ont eu besoin d'électricité, vous, vous leur tordez le cou à longueur d'année, moi, je leur apporte une centrale électrique. Hein. Ça, alors ça, on est tout à fait dans la façon de travailler d'Erdogan. Bon, hein. Et je suis à l'OTAN, et alors je suis à l'OTAN, mais ça ne m'empêche pas. Alors il va leur dire, c'est un peu cocasse dans sa bouche, je fais de l'humanitaire. Je fais du bien à des gens qui n'ont plus d'électricité. Hein. Vous n'allez pas vous plaindre. Qu'est-ce que vous pouvez dire, hein. Bon. Alors, ça, c'était le dernier geste. Et je pense que ça fait partie. Alors, il y en a peut-être eu d'autres. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Mais il y en a peut-être eu d'autres. Mais ça veut dire que, pour le président cubain, aller remercier Erdogan de ce genre d'initiative, ça avait du sens. Il n'est pas venu là pour lui faire plaisir. Hein. Vous m'avez rendu un service au moment où j'en avais besoin. Parce qu'il faut savoir que le dernier ouragan sur Cuba a beaucoup, beaucoup affecté le réseau électrique. Et donc, il y avait des pertes de production et des pertes de circulation. Donc là, le bateau arrive à quai, on le branche, et il y a de l'électricité dans toute une partie de l'île qui arrive alors qu'elle n'arrivait plus. Ça, c'était à la fois l'intérêt bien compris des Cubains de dire merci, et c'était l'intérêt politique d'Erdogan qui veut toujours qu'on parle de lui et qui mette son grain de sel sur toutes les affaires du monde. Ça, on a compris que c'est sa façon de travailler, hein, pour dire, ben voyez, moi, je me permets d'aller... Alors, c'est rigolo parce que ça évoquait d'une certaine façon, mais sous un mode qui est contemporain, ça évoquait les fusées soviétiques à Cuba. Non, hein, parce que pour les États-Unis, cette arrivée de ce bateau et cette centrale électrique turque à Cuba, ça voulait dire qu'il y avait un membre de l'OTAN qui leur tirait la langue en disant « Mais moi, s'il faut aider les Cubains, je les aide. Hein. » C'est tout à fait clair, la leçon. Bien. On va en parler après. Pour la musique. Non, un tout petit peu encore. Je finis sur Cuba. Je finis sur Cuba. Non, ces dames me disent, est-ce qu'on passe la chanson qu'on a pas. Non, un tout petit peu après. Je finis le périple de M. Díaz-Canel. Donc, étape Ankara, et ensuite étape Moscou. Étape Moscou, étape très, très spectaculaire, puisque en fait, on a vu donc, le président russe accueillir avec tous les égards le président cubain, et surtout, geste extraordinairement symbolique, inaugurer avec lui une statue en bronze en pied de Fidel Castro.
Fidel Castro, ouais.
Alors, tout le monde, énorme effet de surprise, donc c'était prêt. Hein, je veux dire, ça ne fabrique pas une statue de Castro en 24 heures. Bon, donc ça faisait partie du voyage, ça faisait partie du programme du voyage, et ça a été fait. Alors je m'arrête là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'observateurs et de commentateurs sur les réseaux qui ont dit « Mais enfin, Poutine, c'est pas qu'il dit que Castro c'est bien, qu'il rend hommage et tout. » Oui, il l'a dit parce que je pense qu'il le croit. C'est-à-dire qu'il rend hommage, à un chef d'État qui a réussi avec de tout petits moyens, 10 millions d'habitants, une île à 300 km des côtes américaines, à tenir tête aux géants, qui n'a jamais lâché. Quel qu'ait été le prix de son courage et de son opposition à la politique des États-Unis. Et donc ça, c'est l'hommage que Poutine a voulu rendre à Castro et donc qu'il a transmis au nouveau président. C'est tout à fait clair. Par ailleurs, je vais vous citer quelques phrases qui ont été prononcées par l'un et l'autre. Mais par ailleurs, ce qu'il faut savoir, et c'est là qu'il faut s'arrêter sur le personnage du président russe, c'est-à-dire que dans la situation actuelle où nous trouvons, le monde entier, lui et pas que lui, tout le monde, il est un moment où il faut sortir de sa tête l'idée que M. Poutine a été fabriqué par le KGB sous l'ère Eltsine et tout, c'est un vendu qui s'intéresse qu'à l'argent, et ça, cette idée ne tient plus. Elle a volé en éclat depuis un certain temps, et elle vole en éclat complètement maintenant. On a affaire à un chef d'État qui défend non seulement son pays, ce qui est son métier, mais qui défend un ordre international différent.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, moi, je dis, alors, c'est pas un miracle. Il a pris la mesure de la situation, il a pris la mesure de ses capacités, il sait qu'elles ne sont pas illimitées, d'où l'idée de la multipolarité, mais il n'est pas, à la différence des oligarques ukrainiens, par exemple, un vendu qui fait tout pour de l'argent. C'est pas vrai. Tous ses discours prouvent le contraire, toute sa politique prouve le contraire. Il n'est pas, alors, Poutine n'est pas devenu socialiste, hein, il est devenu un chef d'État responsable, un grand chef d'État responsable sur la planète. C'est très, très différent. Mais ça, on a de la peine à articuler ce genre de propos, parce que la propagande occidentale est tellement stupide et borné en disant Poutine ceci, Poutine cela, etc., comme s'il était seul sur la terre russe où il y a quand même 170 millions d'habitants, ou s'il n'y avait aucune capacité de rien du tout, etc. Bon, on est dans un discours, on nous a enfermés dans ce discours sur Poutine ceci, Poutine, c'est encore un coup de Poutine. C'est complètement délirant. La politique, ça ne se fait pas comme ça, surtout quand il y a 8 milliards de personnes sur la terre, avec des gens intelligents qui lisent, qui écrivent, etc., partout. C'est pas possible. Donc il faut analyser les faits, les politiques conduites, les organisations, les discours, tout ça en fait partie. Alors, quelques citations. Non, ça sera pour après. Allez, on va passer. Alors, puisque j'étais sur Cuba, on va passer donc une chanson d'un chanteur cubain très célèbre qui est mort la semaine dernière, qui s'appelle Pablo Milanes. Et la chanson qu'on va passer s'appelle « J'aime cette île, amo esta isla ah. ».
Yeah.
Donc c'était « J'aime cette île, amo esta isla » de Pablo Milanes. Et je finis rapidement sur la visite donc du président Díaz-Canel à Moscou, où simplement Poutine a rappelé qu'il avait reçu Fidel en juillet 2015. Et il l'a dit, il a parlé des choses qui étaient étonnamment en accord avec l'époque du développement d'un monde multipolaire, en disant que l'indépendance et la dignité ne peuvent pas être mises en vente et que chaque nation a le droit de se développer comme elle l'entend et de choisir sa propre voie, et qu'un monde vraiment juste n'a pas de place pour la dictature, le pillage ou le néocolonialisme. Bon. Ça, c'est Poutine qui reprend donc les propos de Fidel Castro. Et il ajoute, alors en parlant du monument, donc c'est la grande statue de Fidel Castro, où on le voit marchant, comme s'il était dans la Sierra Maestra, c'est un monument en mouvement, je pense qu'il reflète la personnalité de Fidel au milieu de la lutte, tout comme nous sommes au milieu de la lutte aujourd'hui. Et ils ont, d'un commun accord, dit tous les deux, ensemble nous continuerons à renforcer notre union et à défendre les grandes valeurs de liberté, d'égalité et de justice. Voilà. Donc il y a eu donc un échange assez chaleureux, presque fraternel entre les deux paysages. C'était ce que je voulais dire. Et puis ensuite, donc, Díaz-Canel est allé à Pékin, où là encore il a été reçu avec les honneurs dus à son rang au plus haut niveau par le président, par le premier ministre, par le président de l'Assemblée du peuple, etc.
Bon,
voilà. Et donc, ça, je voulais conclure là-dessus, sur cette visite, qui est pleine d'enseignements, puis qui aura des suites, puisqu'il y a en même temps, parallèlement au président, il y avait des fonctionnaires cubains qui l'accompagnaient, donc qui ont discuté de cas concrets, qui ont signé des accords, etc., avec leurs homologues russes et chinois. Donc, ça aura des développements, mais dans un cadre très, effectivement, fraternel et le plus juste possible. Et puis, on va maintenant aborder la Syrie par un biais qu'on a trouvé. C'est-à-dire que vous savez, vous vous souvenez tous pour l'avoir entendu, que Habib est allé en Syrie, donc il y a un mois et demi maintenant, au mois de septembre, pour faire de son aide humanitaire à lui. Alors, Habib, c'est à lui tout seul, Amnesty International, le Secours Populaire, Médecins Sans Frontières, etc. Hein, quand il va en Syrie, où il est né, il arrive avec de l'aide. En général, sous forme argent, ben, c'est le plus facile à mettre dans sa poche.
Chaque année, parce qu'ils subissent toujours la loi César.
Ils subissent aussi un embargo et qu'ils sont quand même maintenant presque à leur 12e année de guerre. Alors, une guerre suscitée et organisée par les États-Unis de longue date, qui a commencé en 2011, mais qui était en préparation depuis, en gros, le 11 septembre 2001, puisqu'il y avait déjà eu des lois votées par le Congrès des États-Unis en 2004, qui s'appelait le Syria Accountability Act, qui disait qu'il fallait tordre le cou au régime syrien. Alors, c'était dit en termes parlementaires, mais c'était ça que ça voulait dire. Hein. De quelles responsabilités on peut, enfin, de quelles erreurs on peut imputer le gouvernement syrien? C'est ça que disait cette loi votée par le gouvernement, proposée par Bush et votée par le Congrès en 2004. Donc, en 2004, la destruction du gouvernement syrien était programmée et votée par le Congrès des États-Unis. C'est ça dont il faut. Voilà. Donc, Habib, quand il va donc faire sa tournée humanitaire en Syrie...
Voilà, j'ai eu de la chance...
Voilà, tu le racontes.
...pour pouvoir rencontrer...
un personnage.
Le père Elias Zahlaoui, à Damas, à Notre-Dame de Damas, d'ailleurs, on l'appelle. J'ai très bien reçu par lui, et d'ailleurs, il m'a dédicacé un livre...
Oui.
Écrit en français, « Les lettres ouvertes et écrites » par le père Elias Zahlaoui. Alors, je remercie d'abord Radio Galère et mon ami Bernard Genet, Comaguer, d'inclure dans ses informations d'aujourd'hui le parcours du prêtre catholique malikite qui a milité durant les 12 années de guerre de la Syrie. Un témoignage de foi dans un pays laïque face à un pouvoir très contesté par les Européens, les Américains et certains pays arabes. Le père Elias Zahlaoui a donné durant toute sa vie un but, installer la justice et la paix dans le monde. Il a entre autres dénoncé les pays qui ont envoyé des criminels, des assassins pour faire disparaître la Syrie au service du sionisme. Dans sa fameuse phrase, dans le Parlement, je pense, européen, je ne sais pas si je me trompe, ma vie de prêtre récolte une foi immense à la fréquentation des musulmans. Voilà, c'est ce qu'il a dit, je pense, au Parlement européen. Alors après, donc la prochaine fois, le prochain mardi, nous allons, Rosemary, j'ai sélectionné déjà, si, tu vas lire le...
Je m'appelle pas Rosemary.
Roseline, pardon. Roseline, c'est la première fois que je parle longtemps.
Allez,
voilà, et donc la prochaine fois, Roseline, elle va nous lire une lettre.
La prochaine fois, non, c'est pour la semaine prochaine.
Voilà.
Voilà, voilà. Donc, voilà, merci. Donc,
alors, je vous remercie.
Merci, Habib. Donc, à rencontrer cet éminent prêtre, donc un prêtre catholique qui a 90 ans maintenant, je crois.
90 ans, oui.
90 ans, donc qui est prêtre à Damas, qui est prêtre catholique et qui a écrit un livre en français. Alors, il faut savoir que dans les gens cultivés en Syrie de cet âge-là, le français était une langue couramment utilisée. Mais là, elle est pratiquée. Le monsieur écrit très, très bien.
Ah, hein, oui,
et
oui.
On vous fera profiter la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est Roselyne qui lira. Non, tu ne seras pas là. Bon, on vous fera profiter de lettres extraordinaires parce qu'il donne son opinion sur les événements, mais il écrit aux grands de ce monde en leur disant ce qu'il voit là où il est à Damas pendant la guerre, et il dit ce qu'il en pense. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'il y a en particulier, on vous en fera profiter la semaine prochaine, une lettre à François Hollande, une lettre à Alain Juppé et une lettre à Nicolas Sarkozy qui sont dévastatrices. Et voilà un monsieur qui est un simple curé à Damas qui regarde les dirigeants français pour ce qu'ils sont. Non, j'en dis pas plus. Lui, il le dit beaucoup mieux.
Il n'a pas la langue dans sa poche.
Voilà.
Et une lettre à Macron, même.
Voilà. Oui, et une lettre à Macron aussi. Et vous verrez, là, il a... Donc, c'est un monsieur qui ne dort pas, qui est bien au courant de tout, qui sait très bien ce qui se passe dans la politique française, parce qu'il parle un parfait français. Il écrit un très, très beau français. Et donc, on vous fera profiter d'un regard... très distant, mais en même temps très pointu, donc d'un prêtre catholique à Damas qui nous regarde vivre, nous pauvres Français, avec nos pauvres dirigeants qu'on aimerait bien changer, mais on n'y arrive pas, vous le savez. Je ne vais pas tourner le couteau dans cette plaie. Hein. C'est très important parce que, alors, dernier aspect, donc il est prêtre catholique, il y vit donc à Damas depuis qu'il y est né. Et puis
il a écrit aussi au pape.
Voilà, il a écrit au pape.
Et à l'église.
Voilà, il écrit au patron, comme on dit. Voilà. Il écrit au patron, il n'a pas peur d'écrire au patron, comme on dit.
Ouais, ouais.
Bon, ça, c'est très bien. Mais c'est pour aussi rappeler que dans la constitution syrienne, comme dans la vie quotidienne syrienne, exactement, les catholiques... Donc, papistes, j'allais dire, les catholiques latins sont respectés, sont installés, vivent tranquillement, comme les catholiques de rite grec, comme les orthodoxes, comme les musulmans sunnites, comme les musulmans chiites, comme les alaouites, etc.
Les druzes, les ismaïlites.
Voilà, toutes les confessions ont libre accès au territoire syrien, ont libre accès à l'exercice, et en plus, souvent fraternisent entre elles, puisqu'on a eu des échos personnels de voyageurs qui nous disaient que, aussi bien une église est enfermée, on va à la place, comme l'église est en réparation, on va faire le culte catholique à la mosquée, réciproquement. Donc, pensons à ça, parce que dans le pays où nous vivons, qui se part de la tolérance de ci, de ça et tout, c'est pas si fréquent ce genre d'attitude. Hein. Ouais. On respecte toutes les confessions et chacun peut vivre librement. Alors, les musulmans sont dominants numériquement, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais entre les musulmans, les alaouites, les druzes et tout, les ismaélites, il y a déjà plusieurs versions de l'islam disponibles, chacun a la sienne. Hein, ouais. Ça ne donne pas lieu à guerre civile. C'est ça qui est tout à fait important. La seule tentative de guerre civile qui a lieu, j'insiste parce qu'il faut l'insister, c'est qu'à un moment donné, du temps où le père de Bachar el-Assad était au pouvoir, donc Hafez el-Assad, il y a une tentative d'un groupe musulman bien organisé internationalement pour prendre le pouvoir et pour faire une dictature de leur courant de l'islam. On les appelle les frères musulmans. Et ils ont voulu prendre le pouvoir comme ils ont essayé de le prendre en Égypte, comme ils ont essayé de le prendre dans d'autres endroits. Alors il s'agit d'un courant donc, conservateur, contre-révolutionnaire, qui veut que l'islam s'impose à tout le monde, qui est donc intolérant, hein, et qui a des pratiques.
En commettant beaucoup de.
Et qui en plus.
Associations,
voilà. Ouais. Et en plus, il a donc une voix, disons, une main droite qui dit l'islam, le Coran, ça, et une main gauche qui assassine.
Voilà. Ouais. Exactement.
C'est ça, les frères musulmans. Mmh. Ouais. Bon, ça, le gouvernement, enfin, le père de Hafez al-Assad n'a pas voulu qu'ils existent sur son territoire. Il les a réprimés, c'est vrai, mais il a sauvé la liberté de conscience la et laïcité, la liberté de culte et la laïcité qui existe en Syrie. Ouais. La seule référence à la religion qu'il y a dans la constitution syrienne actuelle, c'est que le président de la République doit être un musulman. C'est un coup de chapeau et c'est la reconnaissance de la majorité démographique de facto des musulmans. C'est tout. Tous les autres...
Musulmans sunnites au début.
Voilà. Et maintenant, c'est musulman.
Ben oui, voilà. Depuis qu'il y a eu le père Hafez al-Assad,
voilà.
Il a dit ben, les musulmans chiites, les musulmans
alaouites,
musulman. Ce sont des musulmans.
C'est un
donc
musulman.
Il a fallu qu'il fournisse un brevet comme quoi il est musulman,
il est musulman. Voilà.
Pour être président de la République.
Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on ne dit pas sur la Syrie et c'est ce qu'il faut que les Français qui nous écoutent sachent, c'est-à-dire que notre tolérance, notre liberté de conscience, on n'en a pas le monopole et il y a des gens qui l'exercent d'une façon peut-être beaucoup plus concrète que certains d'entre eux.
Ouais.
C'est-à-dire.
Je voulais juste faire une parenthèse papale.
Papale.
J'ai vu que le pape soutenait l'Ukraine, la position de l'Ukraine. Voilà.
Bon.
Je ferme la parenthèse.
Bon.
Ouais, ouais.
Ok.
Bon. On y reviendra peut-être. Oui. Tu as vu les termes? Tu as vu
une texte?
Non.
Bon.
Je voulais dire une chose.
Vas-y.
Au Venezuela, actuellement, les Américains demandent le pétrole.
Oui, alors...
Je ne sais pas si tu
es au courant. Alors, ouais. Effectivement, comme vous savez, ben, du fait qu'il y a eu la tentative de renversement du gouvernement légitime donc de Nicolás Maduro, l'épisode lamentable du faux président Guaido, toutes les difficultés qui ont été faites à l'économie... concrètement, il y a un embargo aussi sur le Venezuela. Le Venezuela, qui a d'énormes capacités et, on le dit, les principales réserves pétrolières mondiales, a beaucoup, beaucoup ralenti sa production. Et donc, il est question aujourd'hui, pour se passer de pétrole russe, il est question d'utiliser à nouveau, il est question aux États-Unis, d'utiliser à nouveau le gaz, le pétrole du Venezuela. Ouais. Et là, apparemment, il y a une société des États-Unis qui a encore gardé des installations et des capacités de production sur le sol vénézuélien, qui est la société Chevron, qui... paraît-il, alors on vous en reparlera parce que ce n'est pas défini, mais enfin on sent bien que du côté des États-Unis, on se dit après tout, une façon d'embêter la Russie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de faire travailler, de faire remonter l'économie pétrolière vénézuélienne, pas peut-être au niveau où elle était il y a 20 ans, mais à un niveau satisfaisant, surtout pour nous. C'est-à-dire on achèterait au Venezuela plutôt que d'acheter aux Russes, puisqu'on n'achète plus aux Russes. Voilà. Et je reviens à la Syrie parce que je voulais qu'on termine là-dessus, puisqu'il est en train de se préparer. Où c'est déjà un peu en cours, un événement qui est aussi donc qui fait partie du grand jeu de Erdogan. Alors Erdogan, je parle du grand jeu d'Erdogan parce que le régime turc sous sa conduite intervient dans le monde entier. Il faut bien savoir, il intervient aussi bien en Afrique, en ce moment en Somalie pour défendre le gouvernement. Il a formé les troupes du gouvernement somalien qui est en but à une guérilla islamique. Il a des intérêts économiques en Afrique. Il a évidemment des intérêts en Libye. On le sait, puisqu'il soutient le gouvernement de Tripoli, le gouvernement semi-officiel, etc. Il a des intérêts, on le sait, il continue à avoir des intérêts à Chypre, pour mémoire. Hein. Et j'insiste là-dessus parce qu'il faut savoir que la Turquie, que ce soit Erdogan ou un autre qui soit au pouvoir, a de la peine à lâcher prise. C'est-à-dire que la loi internationale, ça ne la tracasse pas trop. Et chaque fois qu'elle peut avancer ses intérêts propres, elle a des espèces de réflexes néo-ottomans qui font qu'ils veulent bien que ce soit eux qui aient raison sur tout. Donc, il faut bien voir Erdogan pour ce qu'il est. C'est-à-dire un monsieur qui a une volonté de puissance, mais qui est porté par une partie de la population et des classes dirigeantes turques pour mettre son nez dans les affaires mondiales. Et il faut voir aussi, il faut le comprendre, c'est que dans la période de multipolarité où on se trouve... ces tentatives peuvent aboutir. C'est-à-dire qu'au fond, il fait, quand j'ai parlé tout à l'heure du soutien à Cuba, il va tirer la langue aux États-Unis alors qu'il est dans l'OTAN. Bon, c'est une chose qui était absolument impossible à imaginer il y a 20 ans, qu'un membre de l'OTAN vienne faire des misères concrètes aux États-Unis. Ça n'aurait jamais eu lieu.
Hein. C'est vrai.
Par rapport à la Russie aussi, il se tient sur un discours ambigu, c'est-à-dire il a des relations avec la Russie, il achète du gaz de la Russie, il achète des centrales nucléaires, et en même temps, il dit, mais moi j'ai une bonne relation avec Zelensky, donc on va pouvoir discuter ensemble, et il joue l'intermédiaire, le médiateur dans la question de l'exportation des céréales, enfin, vous voyez. Donc on a affaire à un personnage qui connaît toutes les possibilités de la période actuelle de réorganisation des relations internationales, et dès qu'il trouve un endroit où il peut affirmer sa puissance, il y va, même si, par ailleurs, son économie est en difficulté, l'inflation est à un niveau très élevé, même s'il sait qu'il n'est pas sûr qu'il gagne les élections de l'année prochaine, mais il avance partout. Et il avance partout dans ce monde qui est en voie. Alors, c'est ça aussi, la libération des contraintes diplomatiques et des jeux de groupes et des clans au niveau international donne la possibilité à ce genre de personnage d'avancer ses pions, comme on dit, à peu près partout, tout le temps. Et il a le caractère pour le faire. Il est soutenu par une armée qui est quand même assez puissante. Il y a une industrie en Turquie, il ne faut pas l'oublier
très,
non plus.
Très importante.
Et donc, il tente sa chance. Il tente sa chance et ce sera à ceux à qui il fera trop d'ombre, je pense à la Russie entre autres, et peut-être à d'autres, et à l'Iran certainement, de dire, voilà, petit, tu t'arrêtes parce qu'on ne veut pas. Hein. Et je rappelle la phrase de Poutine, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais pas d'aller dicter le comportement des autres. Mais il faut qu'on voit, alors, je ne veux pas diaboliser Erdogan, c'est pas si simple que ça, c'est pas d'avoir un personnage tout seul, c'est une économie, c'est une société, c'est une tradition historique, c'est pour ça que je parle de néo-ottomanisme.
Ouais, hein.
L'Empire ottoman, c'est une vraie nostalgie, c'est clair. Hein. Ouais. Alors ils savent bien qu'ils ne pourront pas faire si grand, hein, et ils savent bien que ça s'est mal terminé, mais chaque fois qu'on peut avancer ses intérêts, on les avance. Et c'est comme ça qu'il faut le saisir.
Et actuellement,
c'est ce qui se passe. Alors, il faut bien comprendre, et je reviens donc sur la guerre de Syrie, la guerre débutée en 2011 concrètement, il faut bien voir que depuis le début de cette guerre de Syrie, la position de la Turquie a été très très claire, c'était de se débarrasser du problème kurde en créant un État kurde sur le sol syrien. C'est limpide, hein, ça n'a pas bougé d'un poil.
Oui, hein. C'est vrai.
Alors après, ça a été porté par différents groupes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les groupes, les armées, ce qu'on appelait le IPG, les forces démocratiques syriennes. Enfin, il y avait des tas d'instructions. Enfin,
le PKS.
Voilà, le PKK, etc. Mais enfin, ouais. L'idée, c'était toute simple. On ne veut pas... Enfin, la Turquie ne veut pas de Kurdes sur son territoire. Ouais. Ou alors, elle veut des Kurdes, mais morts, hein, pour être simple. Hein. Donc, elle va prendre un morceau de la Syrie, puisque les États-Unis avaient dit, ben, on va se débarrasser de la Syrie, de son gouvernement, c'est terminé. Donc, on prend un morceau de la Syrie, et là, on fabrique un État kurde. Et puis, on n'en parle plus. Maintenant, ils sont dehors. Hein, c'est fini. Bon. Ça n'a pas marché. Alors, ils ont installé ou ils ont soutenu différents groupes qui sont installés en gros sur la bande donc du nord de la Syrie actuelle, au nord d'Alep, en gros jusqu'à la frontière.
Une frontière de 900 km.
Voilà, 900 km et de quelque chose comme 30 ou 40 km de large. Hein, ça aurait été un petit État kurde, mais enfin, c'était pas rien. Hein. Simplement, bon, la Syrie voulait pas parce que c'était chez elle. Un petit détail au passage, mais je pense qu'en 2011, quand l'opération a été lancée, les stratèges des États-Unis et Erdogan lui-même pensaient que c'était une affaire de quelques semaines et qu'après, l'État kurde serait concrétisé là et puis qu'on dirait aux Kurdes, là, vous êtes tranquille. Si vous rebougez et que vous remettez les pieds en Turquie, vous êtes tous morts. Bon, alors c'était une façon de les convaincre de l'intelligence de cette position. Et en échange de cette ambition affichée et réalisée concrètement sur le terrain, la Turquie disait « Moi, j'accueille des réfugiés syriens parce que je suis gentil avec les Syriens. Hein. Le gouvernement syrien, je m'en passerai. Mais les réfugiés syriens, je vais faire acte d'humanité. Vous avez des soucis, il y a des combats, etc. Y compris même si vous habitiez dans les
D'ailleurs, pour faire pression contre les Européens, hein,
oui,
ils s'en servaient de ça.
Exactement. En plus, il y avait l'histoire de l'émigration, etc. Ouais. Hein. Donc je les retiens. Vous ne fâchez pas en Europe, c'est une affaire interne à la région. Là. Moi, je veux un État, mais je veux que les Syriens ne m'en veulent pas, que je leur prenne une partie de leur territoire. Alors je suis gentil, je fais de l'humanitaire, etc. C'était ça le calcul. Alors ça a pris différentes formes, ça a évolué selon le temps parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça durerait si longtemps, mais on en est encore là. Mais manifestement, le moment de sortir de cette ambiguïté, c'est-à-dire de cet affichage d'une ambition territoriale très claire de la part d'Erdogan, alors c'est très astucieux, il dit « c'est pas moi qui suis ambitieux, c'est les Kurdes qui veulent s'installer là ». Bien sûr, moi j'y suis pour rien, simplement je les pousse dans le dos à coups de mitrailleuse et à coups de bombardement aérien pour qu'ils ne restent pas chez moi. Et donc c'est ça qui qui probablement va se dénouer. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une offensive de l'armée turque sur les zones kurdes, parce que ça renouvelle ce qu'on dit toujours sur la situation des Kurdes d'une façon générale dans cette région-là du monde. Les Kurdes qui n'ont pas réussi à avoir un État à la fin de la Première Guerre mondiale, vous savez qu'il était dans le traité de Sèvres, l'État kurde existait, il a été dessiné, on l'a vu sur un papier, mais on n'a le vu que sur un papier, et puis le traité de Lausanne en 1923 l'a fait disparaître parce que Kemal Atatürk ne voulait pas, donc la Turquie ne voulait pas qu'il y ait un État kurde, parce que là il aurait empiété sur le territoire de la Turquie. Donc ça les inquiète, ça les intéresse.
C'est-à-dire il y a plusieurs États où il y a des Kurdes.
Alors la majorité des Kurdes aujourd'hui vivants habitent en Turquie, dans l'est de la Turquie. Il y en a donc en Syrie, et il y en a en Iran.
Et en Irak,
dans le nord de l'Irak. Voilà. Bon. Et en fait, donc ces Kurdes d'abord, c'est une population qui a une vague histoire commune, mais pas très commune, parce qu'en fait ils ont vécu dans des différents pays, qui sont pas d'accord surtout. Enfin, il y a, et je le déplore pour eux, parce qu'on a des forces politiques en France qui disent qu'il faut défendre les Kurdes. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de sens, non pas qu'on veuille du mal à quiconque, mais dans la mesure où il n'y a pas une position unifiée de tous les Kurdes du monde, hein, quelques 30 millions de personnes sur une revendication, sur une volonté d'avoir un... Et dès l'instant où on ne trouve pas l'espace sur lequel ils vont s'installer, la Turquie ne veut pas d'État kurde sur son territoire.
C'est-à-dire, Erdogan, je ne sais pas si vous avez écouté, il disait, nous avons des généraux kurdes, nous avons aussi dans l'administration des Kurdes. Ainsi voilà.
Alors il dit qu'il y a des Kurdes, mais à qui il interdit de parler leur langue, hein. Donc effectivement, ils sont nés dans la zone kurde. Bon, donc c'est triste à dire, mais c'est pas la première fois que je le dis, j'ai pas honte de le dire, mais il est très très difficile de soutenir les Kurdes dans la mesure où il n'y a jamais eu, depuis 1923, d'unité de tous les Kurdes existants sur une revendication commune. Et c'est délicat parce qu'ils vivent dans plusieurs pays à la fois, et que jusqu'à présent, et on comprend la position syrienne comme on comprendrait la position iranienne, aucun pays n'a voulu dire je me prive d'une partie de mon territoire pour des gens qui sont là, mais qui sont pas. Enfin, qui sont. Alors, il y a pas. Alors, toi, tu sais, Habib, que le gouvernement syrien n'a jamais violenté les Kurdes syriens.
Ils disent, de toute façon, ils ont les mêmes droits que les.
Ils vivent chez nous, voilà. Mais on va pas leur découper un État pour leurs beaux yeux. Puis d'autant plus cet État, on va leur découper un État pour qu'il soit 1 million ici, puis ils vont venir 5 millions d'autres qu'on n'attendait pas sur des terres qui sont pas forcément productives, etc. Bon, et ça c'est cet aspect de géopolitique générale. Et puis il y a le côté profit, petit profit, petit bénéfice. La zone dans laquelle la Turquie voudrait qu'il y ait cet État kurde, c'est aussi la zone pétrolière de la Syrie, et ça va aussi jusqu'à la zone pétrolière de l'Irak. Et donc ce qui se passe depuis 2011, c'est le pillage des ressources pétrolières syriennes et irakiennes par les gouvernements pseudo-kurdes qui sont là et par la Turquie. C'est-à-dire que le pétrole qui est extrait donc dans ces zones-là va en Turquie. Alors c'est assez sommaire, il y a un tuyau, mais il y a aussi des camions.
Il y a des camions qu'on voit.
Voilà. Alors on les voit, on ne cache pas des convois de vingtaines ou de centaines de camions sur la route entre l'Irak et la Turquie. Donc il y a vol permanent du pétrole syrien. Dans une zone.
Je croyais qu'il était aussi volé par les États-Unis.
Alors, les États-Unis, alors.
C'est eux qui donnent le feu vert.
Les États-Unis sont là pour soutenir jusqu'à nouvel ordre ces mouvements kurdes et pour favoriser justement ce trafic-là.
Ils s'en servent.
Voilà. Ouais. Alors, ce qui se passe par rapport à l'offensive qui est commencée donc, de la Turquie qui bombarde ces zones-là pour que les milices kurdes ou pro-kurdes qui sont là lâchent le morceau. C'est qu'ils disent, et je pense que c'est faux, que les États-Unis et la Russie laisseront faire. Alors les États-Unis sont sur place, ils ont quand même aidé ces Kurdes là depuis le début. La Russie, probablement pas. Et donc on a une nouvelle ambition donc, de Erdogan qui est là, en disant je pense que c'est le moment, pour l'instant c'est compliqué les relations entre la Russie et les États-Unis à cause de l'Ukraine, etc. C'est le moment de tenter ma chance. Personne ne m'empêchera, personne ne m'arrêtera. Bon. C'est ça qui se joue. Ça va se jouer probablement, alors je le dis parce qu'il faut le dire, ça va se jouer dans le sang. dans le sort des populations et de ces groupes kurdes ou sympathiques kurdes, sous les yeux des militaires américains qui sont là, face à une armée du gouvernement syrien qui n'est pas dans ces territoires-là.
Il y a les Anglais et les Français.
Et il y a les Anglais et les Français, ce qu'on a appelé à l'époque la coalition.
Oh, c'est ça.
Bon. Et il faut savoir aussi qu'il y a une grosse base américaine dans le quart sud-est de la Syrie, à Al-Tanf. Donc tout ça est une équation compliquée. Et donc M. Erdogan se dit... C'est tellement tendu la situation que personne ne va s'intéresser à ce sujet. Les Kurdes, de toute façon, qui les soutient ? Pas grand monde. Hein. Donc, ils se sont pas unis, ils n'ont pas été clairs, ils ont eu des puis ils ont trafiqué avec les uns, avec les autres, avec les Américains, avec la Turquie, etc. Bon, tant pis pour eux, ils ont mal joué. Alors, c'est triste à dire, ça me fait de la peine de dire, d'une population de plusieurs dizaines de millions de personnes qui ne trouve pas son avenir politique sur la planète telle qu'elle est organisée, au moins dans ce coin-là du monde. Résultat, il y a des Kurdes qui s'en vont partout, mais c'est ça. Donc, voilà ce qui se passe, qui est en train d'arriver en ce moment, c'est cette tentative d'Erdogan de dire « je passe en force parce que la situation est tellement bloquée au niveau international, enfin bloquée d'une certaine façon, qu'on va me laisser faire. Il y a trop d'autres sujets sur la table, trop d'inquiétudes ici et là. »
D'ailleurs, il tend la main à...
On est bon.
Au pouvoir syrien, quoi.
Tout à fait. Alors, dernière chose, quand même, c'est qu'effectivement, et ça n'était jamais arrivé depuis 2011, il y a un projet de rencontre au sommet entre Erdogan et Bachar el-Assad, parce que dès le début, et ça n'a pas bougé d'un iota, la position de Bachar el-Assad a été de dire « Ok, les Kurdes qui veulent vivre en Syrie vivront en Syrie, mais ils vivront dans le cadre de la République arabe syrienne et de sa constitution et de sa législation. Donc si c'est de ça qu'on discute, on discute. Donc les Kurdes qui viendront chez nous, qui seront traités correctement comme tous les autres, comme les Druzes, comme tout le monde, etc., ont leur place. Mais il n'est pas question que vous nous envoyez 1 ou 2 millions de Kurdes de chez vous que vous ne voulez pas.
Bon. C'est ça, ouais.
Mais le fait que Erdogan ait accepté le principe de cette rencontre avec un arbitre, alors qu'il sera probablement la Russie qui sera là pour assister aux négociations, et peut-être l'Iran de l'autre côté, fait que ça risque d'avancer après la tentative de coup de force qui est en cours. Voilà. C'était là-dessus que je voulais terminer, donc en vous annonçant pour la semaine prochaine donc la lecture des lettres saignantes de Monseigneur Elias Sarlaoui, donc prêtre catholique à Damas, et puis d'autres chroniques sur d'autres sujets intéressants. Merci de votre attention. Merci à nos émérites techniciennes... qui ont fait le job, comme on dit, et à la semaine prochaine.